Merci d'écouter RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
L'heure de retrouver, comme tous les soirs, votre journal en français facile, avec à la une le verdict à Kinshasa dans le procès de Vital Kamerhe. Le directeur de cabinet du président congolais passera 20 ans en prison, reconnu coupable par la justice de détournement de fonds publics, de corruption et de blanchiment d'argent. Alors que l'épidémie de coronavirus continue, aux États-Unis, pays le plus touché du monde, enfermé, 20 000 personnes dans une salle pour un meeting électoral pourraient passer pour une mauvaise idée. C'est pourtant ce que va faire Donald Trump ce soir dans l'Oklahoma. Le président relance sa campagne pour se faire réélire et vous l'entendrez, beaucoup de ses partisans ne comptent pas porter leur masque. Et puis, des juges nommés directement par le gouvernement chinois et un organe de sécurité nationale contrôlé par Pékin. La Chine a présenté aujourd'hui son projet de loi de sécurité pour Hong Kong. On en reparle dans ce journal.
Le journal
en français facile.
En français facile.
Il devient le plus haut responsable politique reconnu coupable de corruption en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe a été condamné aujourd'hui à 20 ans de travaux forcés. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi ira en fait en prison puisque cette peine n'est plus appliquée dans le pays. Il ne pourra pas non plus se présenter à une élection pendant 10 ans. Compte rendu d'audience à Kinshasa de Patient Ligodi, notre correspondant.
Kamerhe paraissait détendu, il souriait même pendant le prononcé du jugement. Le juge Pierre Obankenge, président du tribunal, a expliqué que la jurisprudence renseigne qu'il n'est pas obligatoire de retrouver l'argent dans les comptes de l'accusé pour que le détournement soit constaté. Pour lui, le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a délibérément violé les dispositions de la loi et les règles en matière de passation de marché et de décaissement de fonds publics. Le tribunal note aussi, je cite, qu'aucun doute ne subsiste sur le détournement. Il a également expliqué que l'homme d'affaires libanais Sami Djamal, patron de la société Samibo SRL et principal co-accusé de Vital Kamerhe, n'a pas été à mesure de préciser la destination de 48 millions de dollars reçus du trésor public. Le tribunal a insisté sur le fait que l'intention criminelle est évidente au sujet des Vital Kamerhe et des Sami Djamal. Pour lui, la collusion et la complicité entre les co-accusés est sans équivoque. 20 ans de travaux forcés donc pour chacun d'eux. Vital Kamerhe est aussi déclaré non éligible pendant 10 ans après la peine. Le tribunal a également décidé d'expulser définitivement Sami Djamal du territoire national après l'exécution de la peine. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Et un verdict qui passe mal du côté de la défense. Contacté par RFI, l'avocat de Vital Kamerhe refuse d'accepter ce jugement et compte faire appel. À la une également, les critiques de la Turquie envers la France dans la crise libyenne. Le porte-parole de Recep Tayyip Erdogan accuse une nouvelle fois la France de soutenir le maréchal Khalifa Haftar et estime que ce soutien met en danger la sécurité de l'OTAN. La Turquie, principal allié militaire du gouvernement d'union nationale de Tripoli, a aussi annoncé aujourd'hui qu'elle n'accepterait un cessez-le-feu en Libye que si les troupes pro-Haftar quittent la ville stratégique de Sirte. L'Égypte, qui soutient Haftar, se dit prête à intervenir directement dans le pays si les troupes du GNA avancent vers la ville. Tripoli répond que cela menacerait gravement la sécurité nationale.
Le journal en français facile.
C'est un événement qui n'a pas fini de faire polémique. Aux États-Unis, Donald Trump relance ce soir sa campagne pour la présidentielle avec un meeting à Tulsa, dans l'Oklahoma. En 1921, la ville avait été le théâtre d'un des pires massacres racistes de l'histoire du pays, quand une foule blanche avait assassiné 300 Afro-Américains. Et alors que les manifestations antiracistes se sont multipliées ces dernières semaines dans le pays, le président avait prévu à l'origine de venir à Tulsa hier, jour où l'on commémorait l'abolition de l'esclavage. Face à l'indignation, Donald Trump a donc repoussé son meeting à aujourd'hui. Mais la polémique ne retombe pas, car en pleine crise du coronavirus, ils seront 20 000 à venir écouter le président dans un lieu fermé ce soir. Mais à vrai dire, les partisans de Donald Trump n'y pensent pas vraiment. Reportage d'Anne Corpet, notre envoyé spécial sur place. USA!
Plus de 5 heures avant le début du meeting, la foule déjà compacte scande USA, USA. Sur scène, un groupe de rock dit patriotique se produit. Donald Trump a appelé ce rassemblement « The Comeback Meeting », le meeting du retour, et ses partisans sont ravis de retrouver l'ambiance des grands jours. Georges et Karen Katzenberger.
On est venu de l'Ohio, donc c'est 15 heures de route, mais ça vaut vraiment le coup pour voir notre président, le meilleur président que nous ayons jamais eu.
Cette énergie nous manquait, et on lui a manqué. Il a besoin d'être avec son peuple, c'est pour cela qu'on est venu de si loin. On n'aurait raté ça à aucun prix, même si on avait dû venir à la nage.
Georges et Karen sont septuagénaires et ne portent pas de masque comme l'immense majorité des milliers de personnes qui viennent voir le président. Les cas de coronavirus sont pourtant en nette recrudescence dans l'Oklahoma, un État remporté avec 36 points d'avance par Donald Trump en 2016 et où le président est parmi les siens, même si sa venue pendant le week-end de commémoration de l'abolition de l'esclavage est perçue comme une provocation chez les Afro-Américains de Tulsa. Anne Corpet à Tulsa dans l'Oklahoma. RFI.
Voilà, vous l'entendez, le masque ne sera pas beaucoup porté ce soir, mais l'équipe de campagne de Donald Trump sera bien protégée. Les spectateurs du meeting doivent signer un document dans lequel ils renoncent à toute poursuite en justice s'ils attrapent le virus pendant l'événement. Alors qu'on apprend ce soir que 6 organisateurs du meeting ont été testés positifs au coronavirus, la campagne du président l'assure, aucun employé malade et aucune personne ayant été en contact avec eux ne sera présent ce soir. Le président chinois Xi Jinping l'avait annoncé le mois dernier. Aujourd'hui, les autorités chinoises ont présenté leur projet de loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Désormais, c'est le pouvoir politique chinois qui nommera directement les juges dans la province semi-autonome. Un organe de sécurité nationale qui relèvera directement de Pékin va également être mis en place. L'objectif, c'est de mettre un terme à la contestation à Hong Kong. Les militants pro-démocratie ont manifesté pendant des mois pour empêcher l'adoption d'une loi autorisant les extraditions. Cette question ne figure pas dans le projet de loi d'aujourd'hui, mais elle y est directement liée, comme l'explique Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po.
Alors, c'est une question extrêmement importante et l'inquiétude vient de deux choses, la nomination des juges, mais aussi la création des organes de sécurité et de renseignement chinois sur le territoire de Hong Kong, notamment le fameux ministère de la sécurité d'État. Et cela pose des questions de fond sur plusieurs points. Premièrement, il y a des définitions assez vagues de concepts clés sur le plan juridique, que ce soit le concept de sécessionnisme, que ce soit le concept de collusion avec l'ennemi, ce qui pose donc des questions sur les marges de manœuvre, par exemple, des ONG basées à Hong Kong, et aussi sur les cas les plus sévères, puisque de nombreux législateurs chinois ont annoncé que les cas les plus sévères seraient très certainement extradés vers Pékin. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on a non seulement une loi sur l'extradition qui est de fait en train d'être votée, en plus de la loi sur la sécurité nationale.
Propos recueillis par Romain Lemaresquier. Et puis c'est une nouvelle choc dans un pays en pleine dégringolade économique. L'université américaine de Beyrouth au Liban s'apprête à licencier 25% de son personnel. Et c'est pourtant le plus gros employeur privé local qui gère à la fois un campus universitaire de 9000 étudiants et un hôpital privé réputé dans toute la région. Des licenciements qui sont un signe de plus que la situation est alarmante dans le pays, Laure Stéphane.
Le campus de l'université américaine de Beyrouth tourne au ralenti. Les cours en salle n'ont pas repris pour cause de crise sanitaire liée au coronavirus. Les licenciements annoncés concernent surtout des emplois administratifs à l'université et à l'hôpital. Mais le désarroi est général chez des enseignants confrontés à la perte de valeur de leur salaire. Ali Chalak, professeur associé et activiste dans la vie de l'institution.
Tout le corps professoral s'inquiète beaucoup de pouvoir maintenir ses moyens d'existence et ses travaux de recherche. Tout cela est lourdement affecté. Il y a un sentiment de grand mécontentement et de grande démotivation au sein de la faculté.
La direction pointe la crise économique pour expliquer ses difficultés financières et justifier les licenciements, mais des professeurs mettent aussi en cause la stratégie à l'Ishalak.
Ce n'est pas juste la crise économique qui est en cause, mais une accumulation de mauvaises gestions. Celle-ci nous a menés vers une université où l'administration s'est étoffée et où les plus hauts cadres reçoivent d'énormes salaires et privilèges.
Les départs à la UBI vont gonfler les rangs des chômeurs, près de 35% aujourd'hui. Laure Stéphane, Beyrouth, RFI.
Et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur le site d'RFI Savoir.